Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, nos données à la caisse. Faut-il les monétiser, c'est-à-dire reconnaître à chacun un droit de propriété sur ces données? Si tout le monde s'accorde à dire que nos informations sont de moins en moins chez nous, sont-elles pour autant à nous? Invité aujourd'hui de la deuxième partie de la Grande Table, le sociologue Antonio Casilli, auteur de « Qu'est-ce que le digital labore ?» à retrouver après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, la Canadienne Mélissa Lavaux pour un album « Retour aux sources haïtiennes, 100% créole, Radio Sewell », sorti le 2 février dernier chez No Format, label de la mondialisation heureuse, comme disait son fondateur, un album de résistance et de transmission surtout, nous dira peut-être l'auteur, compositrice et interprète Mélissa Lavaux, notre invitée donc tout de suite jusqu'à 12h30, à écouter sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, en podcast à partir de franceculture.fr.
La Grande Table, Olivia Gesbert.
Elle est née à Montréal, a grandi à Ottawa et posé ses valises depuis à peu près 10 ans en France. Dans ce troisième album, elle retrouve sa langue maternelle et sa part haïtienne. Mélissa Lavaux, bonjour.
Bonjour Olivia.
Troisième album qui démarre comme ça. Attention, fermez les yeux, c'est si bon. M'apprendre à parler créole. Les mamans te choual.
Moi.
Et ça veut dire
quand je monte à cheval, en fait. Sur mon cheval. Et mon cheval, c'est la personne que je possède. Si je suis un esprit, un loi du voodoo haïtien.
Premier titre de cet album qui vient de paraître et sortir dans les bacs aujourd'hui. Une voix à la fois chaude et rocailleuse qui se développe différemment d'une langue à l'autre, diriez-vous, Mélissa Lavaux. Votre voix, vous chantez en français, en anglais et aujourd'hui en créole d'une manière différente.
Oui, je chante définitivement différemment en créole que je ne chante en anglais ou en français. Et j'explique toujours qu'il s'agit d'une histoire de souffle. Et chaque langue a son propre souffle, son propre débit. Et le chant, c'est une histoire de souffle. Et comme je l'apprends, je prends des cours de chant depuis quelques mois. Pour la première fois de ma vie.
Avant, c'était autodidacte,
De ma carrière de 12 ans maintenant, j'ai appris des cours de chant. Et là, je suis avec une chanteuse de fado qui s'appelle Bevinda Ferrer. Et elle m'apprend beaucoup par rapport à l'économie de mon souffle. Et c'est marrant parce que du coup, ça me rappelle pas mal de choses dans ma vie. C'est un peu l'histoire de ma vie. Il faut que je m'économise.
Pourquoi?
Faut que j'économise mon souffle. Parce que j'ai tendance à me démultiplier pour participer à plusieurs projets. Et
à vous essouffler?
Je m'essouffle. Je suis d'ailleurs asthmatique.
Ce besoin d'aller chercher un autre souffle à travers des cours, justement. Pourquoi? Vous aviez le sentiment d'avoir atteint certaines limites? Il fallait essayer de tenter de réorienter peut-être votre voix autrement ou d'aller chercher autre chose en vous que vous pourriez exprimer à travers aussi l'interprétation, la chanson?
Plusieurs choses. Je pense que c'est parce que j'avais envie d'être plus juste. J'avais pas envie. Je pense qu'à ce moment, on n'est pas satisfait de ce qu'on a fait et on a envie de faire mieux. Et moi, j'ai toujours envie de proposer quelque chose de neuf et de mieux. Le mieux de moi. Et il y a aussi cette histoire du fait que j'ai développé de l'asthme en arrivant sur Paris. Moi qui connais le grand air canadien, Paris m'a un peu réduit ma capacité pulmonaire de 40 à 50%. Que je repousse et que je récupère tranquillement. J'ai récupéré pas mal, en fait. Et j'avais juste envie de... Je sais pas, de comprendre ma voix. Je pense que pendant très longtemps, ma carrière musicale a été quelque chose que je subissais. Ah d'accord, j'étais découverte. Ah d'accord, on m'invite à Paris. Ah d'accord. Et puis, je pense qu'avec cet album, c'est le premier album où je suis très active, où c'est moi qui ai payé mon billet, c'est moi qui ai fait les pas, c'est moi qui ai écrit à toutes les personnes que je voulais rencontrer par rapport à cet album. Et c'est la même chose avec ma voix. Là, j'ai pas envie de la subir. C'est un don d'avoir une voix et de pas pouvoir en faire une carrière, mais je préfère maintenant d'être plus active avec ce don et de la travailler et de voir où est-ce qu'elle peut aller.
Et alors ce don, vous l'avez découvert comment?
Je chante. En fait, j'ai commencé à jouer de la guitare avant de chanter. Et j'avais 13 ans. Je jouais devant mes amis, j'avais 15 ans. Et je jouais des reprises de Lionel Richie. Et mon ami me disait, mais pourquoi est-ce que tu chantes si bas et tu joues si fort? Et je me suis dit, oh, ma mère, elle me dit que je chante mal. Et j'avais mal compris qu'en fait, ma mère, elle voulait pas que je chante parce qu'elle avait pas envie que je fasse de la musique. Elle avait envie que je me concentre sur mes études de mathématiques et que je retrouve la voix de l'école de médecine. Et c'est pas pour me dire que je chantais mal, mais en fait, ma mère, elle a répété plusieurs fois pour que vraiment que je sois dégoûtée de la musique. Et je l'ai découvert par rébellion, un peu comme n'importe quel ado fait ça, un peu sa rébellion de ses parents, parce que j'avais envie de m'affranchir et d'avoir un espace à moi.
Voilà, et vos parents ne voyaient pas d'un très bon œil, d'après ce que j'ai lu, le fait que vous veniez à Paris aussi, et vous ne les avez une fois encore pas écoutés. Voilà ce qui vous arrive dans ces moments-là. En tout cas, nous, on en profite. Il y a ce très bel album, donc, qui vient de paraître. Vous dites, vous êtes beaucoup interrogé sur votre légitimité à écrire et à chanter en créole. Pourquoi aujourd'hui avoir fait ce choix? Vous êtes comme beaucoup partagé dans une double culture, beaucoup d'écrivains qui, comme le romancier haïtien Dany Laferrière, ont fait le choix, eux, du français pour parler au plus grand nombre, un dilemme sur lequel revenait l'intellectuel martiniquais Aimé Césaire. Je vous propose de l'écouter et on en reparle.
Vous avez parfaitement raison, je ne suis pas du tout créolisant. Pas du tout créolisant pour plusieurs raisons. Et c'est que peut-être j'ai très fort le sentiment de l'infirmité de cette langue qui s'appelle le créole, qui me paraît vraiment une petite langue régionale, d'une portée extrêmement limitée, non pas du tout que je la méprise, mais enfin pour en faire un instrument valable, il aurait fallu faire sur cette langue un effort aussi prodigieux que celui que les gens de la Pléiade ou les hommes du XVIe siècle ont fait sur le français et pour en faire un instrument valable et utilisable. Est-ce que vraiment, en 1962, cela en vaut la peine? Je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr et je vois que même en Haïti, le problème se pose et pourtant Haïti a une population plus considérable que la nôtre. Les intellectuels haïtiens ont été confrontés par un problème assez douloureux. Devaient-ils écrire en français? Devaient-ils écrire en créole? Et je ne sache pas que la majorité ait écrit et choisi le créole. Le créole, parce que c'est une langue, encore une fois, d'une influence extrêmement limitée, choisir le créole, c'est un peu se couper du reste du monde.
Écrire, chanter en créole, est-ce que c'est un peu se couper du reste du monde pour vous aussi ?
Non, du tout. Je pense que cette histoire de retrouver ses racines, c'est une histoire qu'on... Dans un monde où il y a la globalisation, où il y a énormément de mouvements, d'immigration, c'est une nouvelle manière de parler. Que le créole nous sert aussi de rappel du passé. C'est aussi une langue hyper moderne. J'en parlais à Vladimir Cagnolari, avec qui on a fait des capsules vidéo pour l'album.
Ex-RFI, ex-France Inter.
Oui.
Passé qui, aussi par France Culture.
Oui, c'est aussi l'Afrique chantée. Et du coup, avec Vladimir, on parlait du fait que le créole est une langue si moderne qu'il y a le pronom neutre qu'il n'y a pas en français. Du coup, il a dépassé le français dans sa modernité. Et c'est probablement par économie. Je pense que si on en a envie de créer une sorte de rébellion, de former sa constitution, il faut rapidement connaître la langue des autres. Et puis les gens, les esclaves qui venaient sur Haïti, ils venaient de différents pays, de différentes ethnies. Et du coup, ils ont dû apprendre à se parler, à communiquer entre eux assez rapidement. Mais pour moi, je trouve que c'est une langue assez magnifique et que cette histoire de pronoms neutres, ça me touche vachement, ça me touche en tant que personne queer, ça me touche en tant que personne qui est trilingue, ça me touche parce que je me dis qu'Haïti, avec ses traditions, avec son histoire particulière, elle a sa place dans un monde moderne.
Pas se couper du monde, contrairement à ce que dit Aimé Césaire, mais se reconnecter aussi à vos racines, revaloriser une culture, un patrimoine. Donc c'est pas le cahier d'un retour au pays natal, cet album, c'est vraiment celui d'un retour pour vous, par le chant et par la langue à vos racines. C'est dans cet esprit-là que vous reprenez des chansons du patrimoine haïtien. Comment vous les avez exhumées, ces chansons ? Vous êtes allé sur place, chercher, fouiller, creuser, ou c'était des chansons que vous aviez entendues chanter par des proches ?
C'était un mélange. D'abord, j'ai pas envie de... Je balance ma mère beaucoup dans cette émission. Ma mère, elle chante très mal. Mais elle chantait quand même des chansons de Martha Jean-Claude quand j'étais plus jeune. Elle accompagnait le chant du vinyle qu'elle passait pendant qu'elle me coiffait.
Et c'était une chanteuse haïtienne qui chantait aussi beaucoup de contes pour enfants, hein, des comptines.
Une chanteuse haïtienne qui chantait des contes pour enfants qui revendiquait pas mal de choses aussi, qui était assez militante, qui avait épousé un journaliste cubain et qui se retrouve enfermée pour la énième fois en prison à cause de ses convictions et à cause des consignes pour enfants qui ne sont pas que pour les enfants qu'elle fait passer à la radio. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Sans savoir ça, à l'âge de 6 ans, la voix de Martha Jean-Claude m'a toujours beaucoup touchée. Et du coup, moi, j'ai commencé ce projet il y a très longtemps, il y a 6-8 ans, en pensant « Ah, je ferai un hommage à Martha Jean-Claude un jour en fin de carrière. » Et je travaillerai dessus à tous les ans un petit peu. Et quand j'ai commencé à creuser un peu l'histoire de Martha Jean-Claude, je voyais que ces histoires, ces chansons, en fait, elles les avaient puisées d'un patrimoine qui datait de l'occupation américaine. Et je me suis penchée sur cette période d'occupation américaine. Je me suis dit, mais quelle autre chanson date de cette période, ou quelle autre chanson aurait été chantée à cette époque? Et du coup, j'ai pris des chansons de mon enfance. J'ai aussi pris des chansons que j'ai trouvées quand j'ai fait mon voyage en Haïti en 2016. La grande médiathèque de la Focale m'a filé énormément de disques, de livres, des partitions. Elisabeth de la Focale m'a renvoyé encore des partitions quand j'étais rentrée en France. Et j'ai fait un peu la part des choses. Je me suis dit, j'ai essayé de raconter une histoire de cette occupation. J'ai essayé de raconter une histoire en essayant de ressentir comment les gens se sont sentis, en fait, face à une occupation 100 ans après leur indépendance.
Une période dans la vie d'Haïti qu'on connaît peu et que racontent donc aussi ces chansons, chants de résistance du 20e, cette période de domination, occupation américaine, c'était plutôt les années 1910 jusqu'aux années 30, 35 même précisément.
Hein, 15 à 34.
Ouais. À 34. Écoutez Dany Laferrière nous en parler.
les Américains arrivent, et l'idée c'était de mettre de l'ordre dans cet État qui était tout près des États-Unis, et ils ont voulu, à un moment donné, c'est là l'erreur, révolutionner l'agriculture, et à ce moment-là, faire travailler les gens à un rythme, et puis, l'idée de l'esclavage a commencé à germer, et c'est encore dans le nord d'Haïti que ça a les CACO, qui était un groupe de gens qui étaient de paysans, dirigés par Chalmaï Peralte et Benoît Badraville. C'est des groupes de gens qui se sont révoltés contre la présence américaine. On a tellement entendu parler d'Haïti en termes de chiffres de PIB, de PNB, d'assurance de vie, de toutes sortes de chiffres comme ça. Ou bien chaque fois qu'on lit sur Haïti, c'est Haïti le pays le plus pauvre d'Amérique et tout cela. On oublie qu'il y a des gens avec une dignité, avec une vision. D'ailleurs, c'est là le problème d'ailleurs. Tellement farouches de la liberté et de l'indépendance qu'ils sont presque indirigeables.
Indirigeables, insoumis, rebelles, des chants de résistance comme ce titre qu'on va écouter, Nibo. Vous voulez nous le présenter peut-être d'abord, Mélissa Lavo?
Nibo, c'est un loi, une divinité dans le vaudou haïtien qui est l'esprit d'un enfant mort violemment, pas un enfant, plutôt un adolescent qui est tué violemment. Il représente la rébellion. Il a été chanté en tant que chanson composée par Ludovic Lamotte en 36, au départ des Américains. À cette période-là, à la période...
En 34, vous me disiez tout à l'heure.
Oui, ils sont partis 36. En 34, mais en fait, le carnaval de 36, Ludovic Lamotte, il propose cette chanson, parce que le carnaval part toujours du passé récent. Et il propose cette chanson à jouer au carnaval pour parler du départ des Américains.
Et chanson que vous réinterprétez à votre manière. Mélissa Lavo, vous le dites, chanter pendant le carnaval en 36. On est en plein carnaval ou à peine sorti, je crois, du carnaval haïtien.
C'est
la période.
Oui, c'est la période.
Et une culture de la fête qu'on retrouve à travers ces titres, même politique, même militant, même résistant. Et vous êtes en plus autorisé à vous les réapproprier d'une manière à la fois très personnelle. Cette mémoire collective, elle vous appartient aussi à vous. Et chacun peut y mettre sa subjectivité. Et puis d'une manière aussi très moderne, très pop. Il y a quelque chose de très solaire dans tout cet album. De
de vraiment lumineux.
Pour moi, c'est tout à fait normal. En tant qu'enfant, j'écoutais aussi beaucoup Mon Expérience et il chantait la citation du Valier, mais de manière très solaire, très, très agressive. Et moi, je suis tout à fait de l'avis de chanter ses peines en catharsis, en mode solaire.
Cette mémoire que vous réactivez, c'est peut-être important aussi. On a beaucoup parlé des fameux mots durs de Donald Trump, les shithole country, qui visaient aussi Haïti, qui a fait réagir d'ailleurs la communauté haïtienne aux États-Unis, en racontant les liens qui ont uni ces deux pays, notamment cette période de domination, d'occupation américaine en Haïti. C'est aussi les mémoires nord-américaines que vous rafraîchissez. C'est pas simplement un héritage des racines haïtiennes que vous transmettez entre vous. C'est nous rappeler à tous qu'à un moment ou à un autre, il y a eu des liens très forts entre ces deux pays.
Il y a toujours des liens très forts avec Hillary Trump, avec Hillary Clinton et les 15 millions qu'elle a pu récupérer pour le tremblement de terre et puis on ne sait pas où ils sont passés. Donc il y a toujours une histoire. Les Américains, ils ont toujours une implication dans la vie politique haïtienne. Mais c'est définitivement important de recontextualiser les remarques de Trump et pour vraiment montrer que en fait il s'y connaît pas, il connaît pas son histoire. Pour moi, c'est pas que important pour les Américains de savoir qu'il y a eu cette occupation, mais c'est important pour les autres pays qui ont connu une occupation américaine de savoir qu'on a des histoires communes entre nous, toute l'Amérique latine et pas que en fait.
D'ailleurs, vous avez fait une chanson à cette occasion qui circule sur le web et où vous lui dites au président américain, personne n'est illégal. Ce qu'on a tendance un peu à oublier.
Les Haïtiens, ils ont une longue histoire aux États-Unis d'être des boat people. Et ce n'est pas que les Haïtiens. On pense aussi aux Vietnamiens, on pense aussi aux Coréens. Et du coup, une des premières personnes, des premiers groupes à se faire jeter à l'arrivée de Trump, quand il a quand même commencé à changer ses lois de DACA, ce sont les Haïtiens en Floride. Et du coup, pour moi, c'est hyper important de souligner que personne n'est illégal. Il faut arrêter ça me dérange vachement en tant que fille d'immigrante et en tant qu'immigrante en France qui galère toujours avec mes papiers. Personne n'est illégal.
Dans votre dernier album, Mélissa Lavo, Dying is a Wild Night, vous repreniez ce vers d'Emily Dickinson. Aujourd'hui, voire demain, vous faites encore référence souvent à ces sirènes, à ces muses, des poètes, ces Vénus noires qui sont souvent oubliées de l'histoire, mais auxquelles vous rendez hommage. Ce sera aussi le cas en juin prochain dans un spectacle. Et parfois, la fleur est un couteau qu'on pourra voir sur la scène du Tarmac à Paris. Poétesse ou artiste, comme Virginia Woolf, Edmonia Lewis, qui est une sculptrice afro-américaine, vous poursuivez toujours et encore dans cet héritage des femmes créatrices et militantes. Si on reprend les mots d'Emily Dickinson, de l'ouverture de l'un de ses poèmes, « Je ne suis personne, qui es-tu ?» Vous avez trouvé une réponse à cette question, vous, Mélissa Lavo?
Non, je n'ai pas encore trouvé de réponse à cette question et je pense que je ne la trouverai jamais, mais je serai toujours à sa recherche.
« Je ne suis personne, qui es-tu ? Es-tu personne aussi ? Alors nous sommes deux, ne le dis pas. » Il le ferait savoir, tu sais. Ça, c'est la fin du poème d'Emily Dickinson. Vous évoquez aussi une autre figure, une poétesse et militante afro-américaine, souvent dans vos chansons, dans vos paroles, Audrey Lorde, avec ce poème « A Woman Speaks ». Elle tente de dire justement que nous sommes tous faits d'identités multiples et qu'il n'est pas question de se figer en une. On écoute en anglais, si vous le voulez bien, la fin du poème.
I have been woman for a long time. Beware my smile. I am treacherous with old magic and the noon's new fury. With all your wide futures promised, I am woman and not white.
I am woman and not white. Qu'est-ce qu'elles vous ont transmis, toutes ces femmes?
Ah, je pense une... Je sais, c'est une grosse question à répondre, mais notamment Audre Lorde, m'a vraiment sensibilisée au fait que mes identités multiples, je n'avais pas à faire un choix entre ces identités-là et que je n'ai pas besoin de mettre une cape particulière dans tel espace, que je serais toujours toutes ces identités-là, dans une bulle de ces identités-là ensemble et qu'il fallait, qu'il faut qu'elles sortent en quelque sorte. Pour moi, Audre Lorde aussi, c'est quelqu'un qui a de tout son vivant, toute sa vie, tout ce qu'elle représente, c'est quelque chose de, c'est un acte militant en fait. Elle dit qu'on ne s'attendait pas. Alors le fait de vivre, pas de que de survivre, mais de vivre est un acte militant. Ça m'a aussi beaucoup touchée par moments où je n'ai pas eu le courage de savoir si je méritais ma place ici.
Mais vous êtes encore un peu jeune pour le trouver, non pas ce courage, mais la place que vous pouvez avoir peut-être, non ?
Non.
Par la chanson, vous construisez aussi ce parcours.
Par la chanson aussi, parce que c'est un moyen d'expression. Et pour moi, j'ai souvent que la chanson est mon souffle, l'écriture est mon souffle, un peu comme Audre Lorde. Elle donnait souvent des cours de poésie en Allemagne. Elle avait un échange avec des Afro-Allemandes.
Avant de se quitter, on va écouter ce titre-là. Ça commence par Panama. La fabrique de l'album, attention, tout est là.
Ouais, c'est la ville Jacmel, la balle dans l'allée. On arrive en carrefour bonnet. Banana, moi tombé. Ouais, c'est la ville Jacmel, la balle dans l'allée. On arrive en carrefour.
Et là va arriver bientôt, on va l'entendre un petit peu, la voix du chauffeur de salle, en gros, qui nous annonce que c'est vous, la star de cet album, Mélissa Lavaux, mais que vous êtes aussi entourée d'une super équipe de musiciens. Un mot de la fabrication de cet album, enregistré en studio, mais dans des conditions vraiment live.
Oui, au studio de la Marquise à Pontin, avec Vincent Tégère, Vincent Torel, Ludovic Bruni et Drew Gonsalves de Cobo Town et Calypso Rose. Et ce chauffeur de salle, c'était un stagiaire italien, j'oublie le nom.
Mais qu'on va pas tarder peut-être à entendre, histoire de lui rendre hommage. Sinon, bah, il faudra prendre l'album, il s'appelle Radio Sewell. Le voilà. On vous applaudit bien fort et on vous remercie mille fois d'être passé autour de cette grande table. Merci beaucoup,
merci,
Mélissa.
Merci, bonne journée.